nous allons faire une pause. Ne partez pas, nous allons revenir très vite. Merci.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Cyril Amat qui prend la parole pour cette instruction. Nous espérons que tout le monde va pour le mieux dans cette période un peu étrange que nous vivons. Aujourd'hui nous proposons une réflexion, ou plutôt on va dire un thème autour des réflexions d'un investigateur que nous connaissons bien, puisque c'est le titre d'un thème qu'a donné le vénérable maître Lakshmi, les réflexions d'un investigateur. Ces inspirations du maître Lakshmi sont très en relation avec la relation que nous avons tous avec nous-mêmes, avec la nature et aussi avec le monde et tous ces systèmes qui vivent à l'intérieur de nous. Nous savons tous que nous sommes sortis de la nature, notre corps physique appartient à la nature. Cependant, à l'intérieur de nous, dans notre manière de penser et d'agir, nous sommes plutôt dans des systèmes un peu compliqués que nous nous construisons, que nous mimons sur les autres, sur ce que nous entendons à droite, à gauche, à la radio. Il y a donc cette dualité de la nature et des systèmes. Dire vraiment que le plus de qui nous sommes vraiment avec nous-mêmes, qu'on nous dit notre être, celui qui nous est encore inconnu mais qui se révèle à nous à chaque fois que nous faisons un pas vers lui. Nous savons que l'humanité vit dans les systèmes, que nous sommes vraiment avec lui, il vit avec Dieu. C'est la base de cette réflexion. Avec beaucoup de douceur et de compréhension, le maître Lakshmi nous invite, nous tous, comme nous disons nous tous et toute l'humanité, à faire un pas vers la nature, c'est-à-dire de reconquérir cet état d'être humain qui est ce que nous sommes réellement. Il nous invite à pénétrer dans le temple de la mère nature, c'est-à-dire simplement d'être là, ici et maintenant, nous promener dans un parc, si c'est possible. Bien sûr, le mieux est d'aller vraiment là où la nature a son rythme, le rythme qui est le sien, pas un rythme au milieu d'une grande ville. Nous promener dans des bois, dans la montagne, dans des chemins, hors piste, et commencer à nous intégrer avec toute la vie qui nous entoure. Et pour reprendre les mots du maître Lakshmi, commencer à devenir les témoins privilégiés de l'existence des éléments qui composent tout le temple de la mère nature. Ainsi, avec beaucoup d'inspiration, nous pouvons, et aussi avec beaucoup de simplicité, pouvons regarder simplement les poissons nager, écouter la symphonie de la forêt. On dit symphonie parce que il nous faut éduquer ou rééduquer notre oreille. Au début, on entend juste quelques sons d'oiseaux, quelques sons de vent dans les branches des arbres, etc. Puis finalement, ces sons, ils commencent à avoir une certaine saveur et ça devient une symphonie lorsque c'est la conscience qui se met à écouter et non plus simplement une personne qui est étrangère à la nature. Au fur et à mesure qu'on se promène dans la campagne, petit à petit, on recommence à faire partie de cette campagne, on rentre à l'intérieur d'elle, on fait partie de son sein, on redevient un enfant de la mère nature et elle nous reconnaît. Et notre oreille, nos sens commencent à de nouveau s'habituer et cela produit un certain éveil de la conscience, cela produit un sentir qui nous aide beaucoup puisque être dans un environnement qui est favorable comme la campagne, la montagne, etc., être dans un environnement favorable pour l'éveil de la conscience, c'est évidemment une grande aide. Nous parlons d'une grande aide parce que notre grand défi à chacun, c'est d'arriver à vivre avec nous-mêmes, vivre avec soi-même, se libérer de la bataille des antithèses. Et le maître Lakshmi nous raconte qu'il se promenait dans une nuit sombre et solitaire et il sentait une certaine solitude. Parce que cette solitude, c'est celle d'une personne qui se sent seule. Elle va se mettre en silence, mais pourtant, elle est toujours seule. C'est-à-dire, c'est un faux sentiment. Un faux sentiment, c'est un sentiment qui n'appartient pas à l'être. Donc, cette solitude, c'est très différent du silence. Cette solitude, c'est lorsque, on va dire... on est seul, il n'y a pas de bruit, mais il y a un sentiment assez désagréable d'abandon, d'être seul, comme abandonné. C'est ainsi que le maître Lakshmi nous propose certaines clés pour transformer ce sentiment de solitude qui peut être très réel pour certaines personnes. Transformer ce sentiment de solitude en une rencontre avec le silence. Le silence, en effet, n'est pas du tout la même chose que la solitude. Alors, il pénètre dans cette forêt et il commence à converser avec lui-même. Il cherche quelque chose, en fait, à l'intérieur de lui-même. Il cherche quelque chose qui lui dit, ou quelqu'un, qui lui tiennent compagnie. Alors, il part à la rencontre de son silence. Voyez cette dynamique que nous offre le maître Lakshmi. Pour nous rencontrer nous-mêmes, pour sortir de la solitude, allons à la rencontre du silence. Une force spéciale qu'on appelle le silence. Et dans ce silence, il y a la voix de l'être, une voix silencieuse, inconnue. Et le silence lui répond de ne pas chercher à discuter, mais plutôt chercher à sentir. Dans le silence, on doit sentir. Oui, parce que le silence, on veut dire, lorsque nous sommes avec nous-mêmes, lorsque nous nous proposons de vraiment cesser cette activité mentale, cesser toute cette agitation à l'intérieur de nous, et aller vers ce qui est inconnu. Ce silence, alors, il permet que nous nous éloignions de la solitude. Chacun, nous allons chercher notre propre silence. En observant, la solitude n'existe plus, parce que la rencontre avec ce silence permet une paix intense. Le sentiment d'avoir rencontré une force silencieuse, profonde et bienveillante. Pour cela, on n'a pas nécessairement besoin d'être à la campagne, simplement se proposer de chercher à l'intérieur de nous cette expérience qui va nous libérer de ce faux sentiment qu'est la solitude. Alors bien sûr, lorsque le silence apparaît et que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, sentir une expérience différente, on se sent vivre, on va dire. À un moment donné, bien sûr, ce silence, il va s'éloigner petit à petit, et nous allons de nouveau nous retrouver dans la solitude. Bien sûr, on peut être entouré de beaucoup de gens, on peut être dans des activités très intéressantes, mais probablement à l'intérieur de nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas avec l'être, nous sommes seuls. Donc c'est ce sentiment de rencontre avec notre être dans le silence que nous allons nous proposer de rechercher. Lorsque nous faisons cette expérience dans la nature, nous allons également rencontrer le silence de la nature. C'est une expérience dans laquelle tout d'un coup les bruits deviennent de la musique, les sons deviennent une symphonie. Parce qu'à ce moment-là, dans notre silence intérieur profond, nous voyons et nous sentons ce que nous ne pouvions pas entendre ni sentir, parce que la solitude nous en empêchait. Le maître Lakshmi nous parle de cette rencontre avec la grande réalité. Il a vu cette grande réalité, mais aussi cette grande vérité, qui, avec sa grâce et son amour, la remplit d'extase et d'un sublime samadhi dans lequel il a expérimenté la partie interne de toutes les créatures qui l'entouraient à ce moment-là. Pour reprendre ces mots, le maître Lakshmi dit « C'est que je suis aussi soumis à la douleur de vivre. » Nous comprenons à la douleur d'être seul dans la solitude. Donc il a pu expérimenter et il nous en fait part comme un investigateur qui partage ses réflexions que oui, effectivement, nous sommes ici en train de vivre comme nous le pouvons, aussi bien que nous le pouvons. Mais il y a des moments où vraiment on a besoin de rencontrer à travers le silence notre être pour qu'il nous fasse sentir que réellement nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Car lui, à l'intérieur de nous, est avec nous. Sur cette première conclusion, nous allons laisser quelques instants pour une petite pause et nous revenons juste après.
Nous allons faire une pause. Ne partez pas, nous allons revenir très vite. Merci.
Dios, concédeme vida para ver crecer a mis hijos, paciencia para enseñarlos sin someterlos, sabiduría para que mis actos no los perjudiquen, amor para acompañarlos en su camino, fe para alentarlos, valor para aceptar lo que elijan. Venerable Maestro Lakshmi.
Nous voici donc de retour pour partager ces réflexions d'un investigateur, du vénérable maître Lakshmi. Nous avons donc dit que toute l'importance que nous tous, nous allions régulièrement à la campagne, dès que ça sera possible, pour renouer ce contact avec la nature et dans ce contact-là, pour pouvoir pénétrer dans ces mystères, le maître Lakshmi nous donne une clé. Cette clé, elle part du constat que, finalement, si on est sincère avec nous-mêmes, essentiellement nous vivons dans une solitude, même si nous sommes entourés de beaucoup de personnes. Cette solitude, c'est que nous sommes seuls avec nous-mêmes, c'est-à-dire que tant que nous nous ne produisons pas cette dynamique spirituelle de d'être en rappel de soi, d'utiliser la clé de sol et toutes ces pratiques que nous connaissons, alors nous sommes assez éloignés de notre être, de son inspiration, de son intuition, et finalement nous sommes simplement une partie humaine qui est un petit peu seule. Et donc cette clé, c'est de rechercher le silence. Le silence qui nous permet d'aller au-delà de la solitude. C'est un silence dans lequel nous apprenons à nous taire, à ce que la partie humaine arrive à se taire, pour permettre que surgisse une voix silencieuse, une force qu'on appelle le silence. Cette force qui s'exprime non pas à travers des paroles, mais à travers un sentir. Un sentir qui va nous mettre en relation avec nous-mêmes et nous mettre en relation avec les mystères de la nature. Ainsi donc, le maître Lakshmi quitte cette campagne et rentre dans une ville et commence à observer. Et il voit beaucoup de gens qui vont et viennent à leurs activités. Il voit en premier, et qui lui plaît beaucoup, c'est que dans la ville, il voit quand même beaucoup de volonté et beaucoup d'argent qui arrivent à travailler pour produire des résultats tout à fait intéressants. Puisqu'il voit quand même une ville bien arrangée, avec des structures, des bâtiments, une organisation, des voitures neuves, des gens bien habillés. Tout cela a l'air quand même de produire une certaine harmonie, où tout le monde trouve sa place, et une certaine abondance aussi. C'est-à-dire que la ville humaine, en apparence, offre beaucoup à l'être humain. Et donc ça le réjouit. Cependant, il va investiguer un petit peu plus. Il va partir à la rencontre d'un personnage un petit peu spécial qu'il va appeler le roi du monde. Ce roi du monde, ça peut être une personne importante ou un homme politique, un leader, quelqu'un qui dans la ville est reconnu unanimement comme une personne qui est fondamentale pour le fonctionnement, la structure et le maintien du système ou des systèmes qui composent cette ville. Ce roi du monde, il incarne toute la psychologie de la ville. Il observe donc beaucoup de personnes qui semblent se diriger vers ce personnage étrange qui s'appelle le roi du monde, et chaque personne qui s'approche de lui parle, et il semblerait qu'à la fin de chaque conversation, la personne qui a parlé avec le roi du monde se sente bien et acquis certaines certitudes, certaines vérités, et tous les gens qui parlent avec ce roi du monde en repartent très contents. Donc il est intrigué et il décide de s'approcher un petit peu pour lui-même aller à la rencontre de ce personnage qu'il appelle le roi du monde. Et ce roi du monde lui donne son secret. Il lui dit: c'est le monde qui m'a fait roi, et pour chacune de ces personnes, j'ai ma propre vérité. Donc c'est très intéressant parce que il a une vérité pour chaque personne. Et donc il semblerait qu'il y ait autant de vérités qu'il y a de personnes. Donc le maître Lakshmi lui demande: mais alors n'a-t-il pas une seule vérité qui est celle de Dieu? Et le personnage, le roi du monde, répond avec un aplomb incroyable que oui, bien sûr, parce que le Dieu de toutes ces personnes, c'est lui-même. Donc c'est lui, leur Dieu, qui leur donne leur vérité. Il est donc même plus que le roi de ce monde. Il est le Dieu pour ce monde. Il explique qu'il connaît parfaitement la psychologie de tous les citadins ou de tous les êtres humains en général, et c'est assez simple. Il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut leur donner ce qu'ils veulent, c'est-à-dire souvent du travail, de l'argent, des voitures, beaucoup de choses qu'on trouve en ville en fait. Hein. Et ça tombe bien parce que le roi du monde, ce sont des choses qu'il maîtrise parfaitement. Tout ce qui est très matériel. Ici donc, ce personnage est en quelque sorte celui qui est la pièce maîtresse de tout le système psychologique de cette ville. Il donne à la personne humaine ce qu'elle désire. De l'abondance, de l'argent, des voitures, du travail, des médailles, des félicitations, de l'importance, bref. bref, ce que beaucoup de gens recherchent, sans vouloir juger personne. Ainsi donc, il arrive à s'imposer assez facilement comme un personnage incontournable et comme un véritable chef qui est reconnu pour sa valeur par tout le monde. Donc il dirige les hôpitaux, il dirige les prisons, le système scolaire et aussi le système religieux avec ses églises. Et il dit « Parce qu'ils croient en moi, ils ont la foi en moi. Quand ils offensent et qu'ils se sont bien comportés, je les pardonne. » Effectivement, quand on travaille beaucoup avec le système, quel qu'il soit, le système, nous devons être importants pour le système et ce système a besoin de nous et il nous récompense en nous offrant tout ce qu'il peut offrir, c'est-à-dire des postes importants, des récompenses, des bonnes positions, etc. Pendant le maître Lakshmi, avec sa force révolutionnaire, considère qu'il va falloir mettre à l'épreuve la solidité de ce système qu'a érigé le roi du monde dans cette ville. En analysant la psychologie des citadins, il comprend que la grande faille psychologique, c'est que les gens sont essentiellement dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance. Et pour être très clair, ils n'ont pas la connaissance la plus importante, qui est la connaissance de soi. Les gens sont ignorants car ils n'ont pas l'autognosis. Ainsi donc, ils sont facilement victimes des mensonges ou des petits miracles du roi du monde. Car lorsque nous ne savons pas par quel chemin aller, nous sommes dans un labyrinthe qui est notre vie, qui est notre mental, et nous allons toujours vers le plus offrant, vers le plus agréable ou le plus facile, ce qui est compréhensible. Ainsi donc, le maître Lakshmi propose de travailler avec la vérité, mais pas la vérité de chacun, avec la vérité unie, la vérité unifiée, plutôt que d'unifier toutes les vérités dans une seule. Et ça, cela sera catastrophique pour le système du roi du monde. Car si toutes les personnes commencent à unifier leur vérité en une seule, alors chaque petite vérité ne peut pas continuer à exister. Ainsi donc, toutes ces petites vérités individuelles, très subjectives, très relatives, sur lesquelles repose ce système du roi du monde, perd toute sa force. Mais le travail à réaliser reste important parce que les gens ont tous leur petite vérité qui est légitime et ils ont leur vérité quand ils vont au travail, quand ils sont avec leurs enfants, mais aussi quand ils vont à l'église. Puisque même quand ils vont à l'église, ils demandent des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la partie spirituelle, mais qui sont importantes pour eux. Donc, dans cette ignorance des choses spirituelles, ils demandent, dans le secret de leur prière, des choses qui ne sont pas du tout fondamentales pour leur éveil. En regardant un peu plus près, le maître Lakshmi se rend compte que dans nos systèmes, si bien organisés, si bien contrôlés, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'y trouvent pas leur compte, puisque la misère est quand même là, hein, l'abondance n'est pas pour tout le monde, les médailles ne sont pas pour tout le monde, et il trouve beaucoup de gens qui mendient quelques miettes de pain derrière une église. Et alors il s'exclame « Quel dommage pour cette ville qui est si belle, mais qui est sans amour. Il n'y a donc ni vérité ni amour dans cette ville dirigée par le roi du monde. » Et il s'en prend un petit peu directement aux religieux, encore eux. Alors il cible pas en particulier telle ou telle religion, on va dire les religieux, de toutes les religions. Simplement nous dirons qu'il est très facile lorsqu'on est un leader religieux ou qu'on a une responsabilité de cette sorte de prêcher au nom de Dieu et de faire valoir ses propres opinions au nom de Dieu. Donc pour le citer, ils apprennent leurs dogmes au nom de Dieu, ils discriminent les gens au nom de Dieu, ils poursuivent des gens au nom de Dieu, ils calomnient les gens au nom de Dieu, ils deviennent riches au nom de Dieu. Et la chose la plus mauvaise de tout est due à l'ignorance. Ils imposent un Dieu anthropomorphe qui est comme eux, ils veulent qu'il soit et pas comme il est. C'est-à-dire qu'ils imposent un dieu anthropomorphe, parce que c'est leur vérité à eux. Et bon, un dieu anthropomorphe, nous savons que c'est une vision très infantilisante. Nous allons de nouveau réaliser une petite pause et nous revenons juste après, pour la dernière partie.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Himalaya, la voix de France. Venez nous retrouver tous les mardis et jeudis à 18h pour écouter le programme des Dames Gnostiques, le rossignol chante l'âme.
Voici donc de retour pour la troisième et dernière partie. Donc nous avons parlé que le maître Lakshmi nous enseigne l'importance de rencontrer son silence intérieur dans la nature. Et après ses premières investigations, il décide d'aller en ville où il se rend compte que dans la ville, la force que l'on rencontre, c'est celle qui dirige tous les systèmes qui édifient la ville, c'est-à-dire ces systèmes religieux, éducatifs, sa justice, l'argent, tout ce qui fait fonctionner une ville. Cependant, il ne condamne pas cette ville, il voit sa beauté, son organisation, sa richesse, etc. Et il voit aussi que tout le monde développe une psychologie un petit peu étrange où chacun a sa propre vérité. Et finalement, tout ceci s'unifie sous ce qu'on appelle le roi du monde, qui est un personnage qui vit à l'intérieur de nous-mêmes et qui représente en quelque sorte la psychologie de la ville. Ce roi du monde, il est celui qui fait que nous sommes fascinés par notre propre vie horizontale, partout le confort, l'abondance, les positions, les grades, les diplômes, c'est-à-dire tout ce qui flatte notre fausse personnalité. Et il se trouve que le maître Lakshmi arrive à la conclusion que ce sont tous les habitants de la ville qui soutiennent ce monde qu'il appelle un empire. C'est-à-dire ce monde est en fait un empire avec des systèmes extrêmement complexes qui sont soutenus fermement par tous les habitants qui y trouvent leur compte. Et on va dire, le drame, c'est que c'est l'ignorance qui permet cela. L'ignorance, quand les personnes vivent chacune avec leur vérité, mais le maître Lakshmi, dans son impulsion révolutionnaire, met en évidence que si les personnes avaient la connaissance d'elles-mêmes, elles se rendraient compte que nous pouvons unifier toutes les vérités en une seule vérité, qui est celle de notre être, cette unité multiple parfaite. Il décide donc d'aller à la rencontre des personnes qui sont en souffrance dans cette ville, car tout le monde n'a pas de bonne position, tout le monde n'a pas beaucoup d'argent ou de responsabilité. Il va donc à la rencontre de plusieurs personnes qui sont en grande souffrance, notamment des enfants qu'il va héberger chez lui, quelques enfants qui sont malheureux, en réalisant un acte de charité. Et donc il va offrir à ses enfants ce que le monde et ses systèmes n'offrent pas, c'est-à-dire de l'amour, une vision véritable de ce qu'est la vie, et puis aussi tout simplement un foyer, de la santé, de la nourriture. Et très rapidement, il va se rendre compte que c'est pas possible, parce que le système de la ville, c'est-à-dire les hôpitaux, l'école et l'administration, se sont rendus compte que ces enfants n'étaient plus là, et que donc le système ne pouvait plus accomplir son rôle, parce que ne pouvait plus accomplir son rôle vis-à-vis de ces enfants-là. Et comme le fait remarquer le maître Lakshmi, que faisait le système? Il ne les éduquait pas, il ne leur donnait pas à manger. Ils se préoccupaient peu de leur santé. Ainsi donc, les services sociaux de la ville sont venus le voir pour lui exiger de rendre ces enfants-là et qu'ils soient réintégrés dans le système éducatif, en prétendant que ces enfants, ils leur appartenaient comme un patrimoine hérité de génération en génération. Ils leur appartenaient pour leur religion, car c'est le système qui prend en charge l'éducation religieuse de ces enfants, etc., etc. Ce que nous dit le maître Lakshmi, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnages qui viennent chercher les enfants, en fait, ils soutiennent un empire qui est le monde. La question, c'est de savoir est-ce que cette psychologie des systèmes, elle vit à l'intérieur de nous, les étudiants gnostiques. On ne dit pas qu'il faut condamner les systèmes, ils ont leur utilité, mais ils ont aussi leurs limites. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à notre vie quotidienne, qui est fondamentale, sans laquelle nous ne ferions rien. Ils s'intéressent à notre vie horizontale, qui est la base de toute notre existence. Mais ces systèmes ne peuvent en rien nous donner une base solide pour l'objectif même de notre vie, c'est-à-dire nous élever vers le ciel. Donc les systèmes font fonctionner l'horizontalité de notre vie. Mais dès qu'une personne cherche à verticaliser cette vie, elle se rend compte que ces systèmes-là, quels qu'ils soient, sont un obstacle, car ils ne peuvent pas réaliser ce qui est contre leur nature. Le système financier ne peut donner que de l'argent. Le système de santé n'est là que pour vous soigner. Et malheureusement, le système religieux, qui devrait nous élever spirituellement, n'arrive pas à accomplir cette tâche pour des questions qui nécessiteraient toute une conférence. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est de trouver où nous allons aller, quel est notre chemin, quel chemin voulons-nous prendre. De manière synthétique, le maître Lakshmi nous dit il y a un chemin qui monte et il y a un chemin qui descend. Et dans la vie, on peut rencontrer beaucoup de gens qui vont et qui viennent, dans tous les sens. Cependant, lorsqu'une personne est assise devant son hôtel, et qu'elle est à la rencontre de son silence intérieur, qu'elle a vaincu cette solitude, cette personne-là, elle est à l'écoute d'un ange qui est dans le ciel et qui va descendre vers elle. Et cette personne-là, elle lève les yeux et veut aller vers l'ange. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de la partie humaine qui veut se diviniser, un mouvement de la partie divine qui va aller vers l'humain. C'est-à-dire que, comme nous dit le texte, par une loi d'affinité, une loi de ressemblance, ces deux réalités, c'est-à-dire celle de l'ange qui descend et de l'être humain qui monte, ce sont deux consciences qui se cherchent l'une et l'autre et qui vont, par affinité, s'assembler, s'associer. Le maître Lakshmi voit donc une nécessité pour nous tous de comprendre que il y a un chemin qui existe et qui est réel, que ce chemin, il ne peut pas, ce ne sont pas les systèmes humains qui peuvent nous aider à parcourir ce chemin. Nous ne disons pas que ces systèmes sont inutiles, mais ils ont leur fonction, et il n'est pas dans leur fonction de nous aider à nous élever vers le ciel. Ainsi donc, le maître Lakshmi repart dans la forêt, à la recherche d'un ruisseau, et aussi d'une montagne, et il va s'asseoir et méditer et regarder avec beaucoup d'amour et d'intégration tout le mouvement de la vie dans la nature en train de se réaliser à travers l'eau, la terre, l'air et le feu à l'intérieur de tous les êtres vivants. Et il comprend que ce dont sa conscience a besoin, les réalités de la vie ne pouvaient pas le lui donner. Il a préféré s'inspirer du message d'un ruisseau cristallin, observer aussi des oiseaux qui ne raisonnent pas et qui pourtant volent, mangent, pêchent sans jamais raisonner. Il s'inspire de toutes ces leçons données par la nature, car la nature aussi est un système naturel, un écosystème dans lequel chacun a sa place et dans lequel ce n'est pas seulement la partie physique et humaine qui trouve sa place, mais aussi la partie animique. Car dans le ventre de la Pachamama, de la mère nature, chaque enfant trouve sa place pour grandir spirituellement et revenir à un état angélique. C'est donc une invitation à, dès que nous le pourrons, aller à la rencontre de la nature, abandonner notre solitude, aller à la rencontre du silence et de son sentir. C'est aussi une invitation à nous débarrasser de nos vérités relatives, personnelles et subjectives, de voir un petit peu plus loin, de faire confiance à notre être, d'éveiller notre conscience et surtout éveiller notre sentir. N'essayons pas forcément d'entendre ou de converser avec la nature, parce que il faut aller vers son langage à elle, un langage de la conscience, qui est un langage plus subtil et que nous pouvons comprendre, qui est à l'intérieur de nous-mêmes, un langage d'intuition, d'inspiration, de simplicité, d'émerveillement, de contemplation. Le maître Lakshmi conclut avec la phrase « Le royaume du ciel dirige son peuple et ses enfants avec abondance, avec amour, avec paix et avec sagesse ». Merci à tous pour votre écoute. Très bonne journée.